Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonsoir et bienvenue à tous sur la Radio Gymnase de Nyon. Ce soir avec Maya, Emma, Philippot, Claire et moi-même, Yorick, nous vous parlerons à tour de rôle des jeux de société au Moyen-Âge, de la presse lyonnaise à la fin du 19e siècle, de la mondialisation des médicaments, des préjugés persistants sur les réfugiés et de l'histoire du tirage au sort. Alors, montez le son, installez-vous confortablement, c'est parti.
Êtes-vous prêt à remonter le temps pour découvrir l'univers fabuleux des jeux de société au Moyen-Âge ? Vous pensez certainement que le Moyen-Âge se résume à des batailles épiques et à des châteaux forts. Mais non, c'était aussi une époque où les jeux de société occupaient une place importante dans la vie des gens. Ces jeux étaient un moyen de divertissement, de sociabilité et d'apprentissage.
Dans cette chronique, nous vous plongerons dans l'atmosphère médiévale en explorant les jeux de société qui étaient pratiqués à cette époque. Du célèbre jeu d'échecs au jeu de dames, en passant par les jeux de dés, nous découvrirons comment les hommes et les femmes du Moyen-Âge s'amusaient et se défiaient à travers une table.
On a le plaisir d'accueillir autour de cette table Philippot et Maya, qui ont exploré l'article « Jeux d'hier, jeux de vilains » du site Actuel Moyen-Âge. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, Emma, qu'est-ce qui est essentiel dans un jeu de société pour qu'il soit considéré comme bon ?
Eh bien, un bon jeu de société doit rassembler les joueurs et leur procurer du plaisir, je pense. En plus, je pense que c'est important que certains jeux aient un rôle éducatif.
Intéressant. Et qu'est-ce qu'il est des critères de l'époque médiévale ? Pense qu'ils étaient les mêmes qu'aujourd'hui ?
Ouais, je pense que les critères étaient à peu près les mêmes.
Ok, Philippot, peux-tu nous en dire plus sur les critères communs entre hier et aujourd'hui ?
Tout à fait. Les critères principaux étaient l'importance de la réflexion et de la stratégie, ainsi que le rôle éducatif des jeux, comme l'a dit Maya.
Ah, merci pour ces infos. Mais alors, on sait ce qui faisait un mauvais jeu ?
Les critères pour un mauvais jeu étaient les mêmes à l'époque. Je dirais que les jeux d'hasard, tels que les paris sportifs et les machines de casino, en faisaient partie.
Oui, ces jeux de hasard créaient de l'addiction et étaient associés à des péchés capitaux, tels que l'avarice, l'envie et la colère. Ils ont même été interdits.
Des interdictions qui, je pense, en disent long sur l'attrait des jeux à l'époque.
Oui, d'ailleurs, l'article « Jeux d'hier, jeux de vilains » le dit. Si on a besoin d'interdire, c'est que les gens continuent de jouer. Ça nous montre que les jeux étaient appréciés à un tel point que les gens étaient prêts à tout pour continuer à jouer.
Mais attends, du coup, on connaît un exemple concret de jeu interdit ? Parce que je doute qu'il y avait des casinos à l'époque.
Les jeux de dés, ils étaient considérés comme le fruit du diable. Pour les gens de l'époque, l'inventeur des jeux de dés était Lucifer. Les dés étaient tellement addictifs qu'on a interdit leur fabrication.
Purée, c'est vraiment fascinant de voir à quel point la dépendance au jeu existait déjà. Attends, si je comprends bien, leurs critères étaient liés à la religion. Mais alors, c'était quoi la star des jeux de l'époque ?
Leur Candy Crush à eux, c'était les échecs.
Mais à quel moment ? Moi, je préfère largement Candy Crush.
En fait, c'est le jeu qui incarnait le mieux le symbole de l'affrontement guerrier. Les échecs étaient une partie entière de l'éducation aristocratique. C'est pour ça qu'ils étaient réservés à l'élite pendant longtemps.
Mais du coup, comment ça se fait que les échecs soient restés populaires jusqu'à maintenant ?
Eh bien, entre le 12e et le 13e siècle, le jeu d'échecs s'est démocratisé.
D'ailleurs, on marque aussi que quelques jeux ont les mêmes règles qu'aujourd'hui qu'ils avaient au Moyen-Âge. Et elles se sont très peu modifiées. Emma, devine à quoi correspondent les jonchets ou le jeu de la marelle à trois ?
Jonchets, rien, mais d'après le nom du deuxième, j'imagine trois personnes jouant à la marelle.
Très drôle, mais non, ce n'est pas ça. Les jonchets correspondent tout simplement au jeu des Mikado, et le jeu de la marelle à trois n'est rien d'autre que le morpion. Pour les ignorants, en gros, le morpion, c'est un jeu où on a un quadrillage de 9 cases, et le but, c'est de placer 3 croix alignées. Je t'ai présenté 2 exemples, mais il existe plein d'autres. Donc c'est que 2 exemples parmi tant d'autres qui ont des règles similaires à celles d'aujourd'hui.
Ah merci, je comprends mieux. Mais ok, alors, est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels on n'a pas changé d'avis ? Ou des sur lesquels on a changé d'avis depuis le Moyen-Âge ?
Absolument. Un exemple frappant dont on a déjà parlé, c'est celui des jeux de dés. Aujourd'hui, ils sont tout à fait acceptés, contrairement à l'époque médiévale. Cependant, il est important de ne pas confondre les jeux de dés et les jeux de hasard. De nombreux jeux de hasard sont encore mal perçus et peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé.
Ok, très bien. Donc pour résumer, la plupart des jeux de société médiévaux sont toujours présents aujourd'hui avec peu de modifications. Ils peuvent aussi ajouter une dimension ludique à l'apprentissage. Mais ce qui les rend vraiment appréciés, c'est le fait de partager un moment de plaisir à plusieurs.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Merci à vous deux pour ces précieuses informations sur les jeux de société au Moyen-Âge. C'était passionnant. Pour finir cette chronique en beauté, nous vous laissons avec le très célèbre morceau « Ce jeu-là » signé Johnny Hallyday. Et tout de suite après, vous aurez le plaisir d'en apprendre plus sur la presse nyonnaise d'il y a deux siècles. On écoute.
Nous sommes de retour sur Radio Gymnase de Nyon. À présent, nous allons partir à la découverte du quotidien des Nyonnaises et des Nyonnais à la toute fin du 19e siècle, au travers de la presse locale de l'époque. Le 19e siècle était une période où la presse locale avait une toute autre importance qu'aujourd'hui. Les journaux étaient le reflet de la vie quotidienne des communautés, des enjeux sociaux et politiques, et des progrès technologiques de l'époque. Nous allons nous plonger dans les débuts du journal de Nyon avec l'édition numéro 153 de 4 pages, parue le 22 décembre 1898. De quoi parle-t-elle? Quelles sont ses particularités? Pour en parler, nous sommes avec Claire et Philippot. Voyons de quoi parle le premier article.
Alors, l'article principal de ce numéro aborde le sujet de l'exode rural. Il occupe plus d'une page dans le journal. À cette époque, les villes connaissaient un essor considérable, tandis que les campagnes se vidaient. Pourtant, l'agriculture reste une activité vitale.
Pourquoi est-ce que les gens venaient s'installer en ville? Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui?
C'est à peu près pour les mêmes raisons. Tout de même, à l'époque, la croissance des villes était surtout stimulée par les industries.
Il n'y a que ça qui faisait croire les villes, ou il y avait aussi d'autres facteurs?
Oui, les centres politiques aussi, comme par exemple Paris, Berlin ou Londres, étaient gigantesques bien plus vite que les autres villes industrielles. Cela dû au fait que le gouvernement du pays y siège.
Mais du coup, Berne n'est pas vraiment un bon exemple.
C'est juste, notre Berne nationale est comme l'exception qui confirme la règle. Car malgré les quelques quartiers qui étaient construits dans ces années-là, elle n'a pas eu le même essor que les autres capitales. Une cause probable vient sûrement du fait que la ville est entourée par un fleuve, ce qui devait beaucoup gêner.
Mais il n'y avait pas des aspects positifs à être paysan?
Non, pas vraiment. Les agriculteurs sont critiqués par la population de la ville qui, durant la saison hivernale, les voient comme des glandus, qui préfèrent passer leur temps à boire et à dépenser leur argent dans les cabarets ou les caves.
En plus, les conditions de travail ne faisaient pas rêver.
Alors comment on pouvait faire pour redonner envie à la jeune génération de devenir agriculteur ?
Justement, en améliorant les conditions de travail et en développant des activités plus spécifiques comme l'arboriculture, l'horticulture ou encore la sylviculture.
D'ailleurs, la jeune génération était comme critiquée, car l'opinion générale pense qu'elle ne fait rien. Tout de même, il faut noter que cet article a un éditeur et n'est donc pas très objectif, mais a des idéaux.
Et ça se passait comment dans les autres pays ?
Dans le journal, on nous donne l'exemple des États-Unis. À l'époque, c'était vraiment LE modèle, notamment dans l'enseignement de l'agriculture. Il y avait carrément des facultés qui y étaient dédiées.
De plus, on peut encore considérer les États-Unis comme un modèle dans l'agriculture.
Mais attendez, dans ce journal, on nous parle que d'agriculture ? J'aimerais pas vivre à leur époque, hein ?
C'est vrai, il y a beaucoup d'espace consacré à ça, mais on nous parle aussi d'autres choses comme la neige ou encore les fêtes.
La neige ? Les fêtes ? Le journal, là, il est sorti vers Noël, non ? C'est étonnant que vous n'en ayez pas encore parlé.
C'est vrai, il n'en parle pas beaucoup. À peine une annonce pour une fête et quelques notes sur les achats de cadeaux. Aujourd'hui, on parle bien plus. Et les magasins commencent à vendre des jouets à partir du mois d'octobre. Maintenant, c'est une fête beaucoup plus commercialisée et industrialisée.
En parlant de magasins, le journal avait déjà envie d'inciter les gens à consommer local auprès des petits artisans de la région. Jugez par vous-même. Achetez autant que possible dans la localité que vous habitez. Vous en porterez aussi bien et vous contribuez au développement commercial de votre lieu d'habitation.
D'ailleurs, Philippot, il a parlé de la neige avant. C'est intéressant de comparer la météo en 1898 et aujourd'hui.
Oui, en mi-décembre, ils avaient déjà de la neige dans les campagnes et même en ville. Et pour eux, c'était déjà tard, alors qu'aujourd'hui, il neige à peine une fois par an à Nyon.
C'est très intéressant, surtout que le sujet climatique prend de plus en plus de place aujourd'hui. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre dans ce journal.
Oh si, il y a un dernier thème qu'on pourrait évoquer, la médecine. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec ce domaine. Par exemple, on nous parle de la mort d'un pharmacien et d'un praticien.
On voit bien que c'était des métiers très prestigieux à cette époque. Ce sont les seules morts dont on nous parle, et d'ailleurs, c'est tout un article qui est consacré, et non pas juste une simple place dans la rubrique nécrologique.
Mais du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui manquent comparé aux journaux actuels. On parle pas de sport, il n'y a pas d'entretien avec d'autres personnes.
Ouais, j'avoue, c'est bien marqué. Un autre truc, c'est qu'il n'y a pas de photos, et je trouve que ça enlève du charme.
Oui, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, on était au début de la photographie.
C'est vrai. Nous arrivons déjà à la fin de cette chronique. Donc, pour résumer, ce journal nous montre que la population de la région de Nyon était très centrée autour de l'agriculture. Sûrement qu'une bonne partie de l'économie dépendait des cultures. Ça aussi, ça a bien changé par rapport à nos jours.
Précisons juste que ce journal est un numéro sorti près des fêtes de Noël, et cela reste au vu des contenus des différentes annonces aux articles.
Merci pour ces infos passionnantes sur le journal de Nyon. C'est toujours intéressant de plonger dans l'histoire et de constater les évolutions au fil du temps. On se retrouve juste après Déjeuner en paix de Stéphane Eicher pour une nouvelle chronique sur la mondialisation. Allez, on ne vous en dit pas plus et bonne écoute.
Je ne rêve plus, je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. On ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots.
Nous sommes de retour sur Radio Gymnase de Nyon. Comme vous l'avez sûrement remarqué, oui, c'était pas exactement la même musique. Vous avez eu le droit à « Je suis malade » de Serge Lama. Pour nous pardonner, vous aurez « Déjeuner en paix » de Stéphane Eicher juste après. Vous avez aussi promis de parler de la mondialisation. Nous y voici. La mondialisation a bouleversé le commerce mondial. Vous avez sûrement dû en entendre parler pendant la pandémie. Elle est la cause de nombreuses pénuries, notamment de la pénurie de certains médicaments.
La quinine, la pénicilline et le bornéol sont trois substances qui ont radicalement modifié notre médecine. Nous allons remonter à leur création et vous verrez que leurs histoires sont influencées par la mondialisation.
Derrière ces noms compliqués, vous verrez que ce sont des médicaments très répandus de nos jours. Alors écoutez bien.
On a chacun étudié un de ces médicaments en se basant sur le livre Magasin du Monde. On va vous expliquer en quoi ces médicaments ont permis la mondialisation. Bon, qui commence ?
Feuille, caillou, ciseaux.
À toi de jouer, Emma.
Ok, perso, j'ai étudié le bornéol. C'est la plus rare variété de camphre et il a été découvert par les Européens vers 1490.
Mais c'est quoi le camphre ?
C'est une épice qui vient de la décomposition de l'écorce d'un arbre d'Indonésie.
Et ça sert à quoi ?
Alors, cette rare variété de camphre, le bornéol, a permis de soigner des épidémies de choléra. Maintenant, il sert contre les rhumes, les toux et même contre les fatigues nerveuses.
Mais du coup, c'est quoi le lien avec la mondialisation ?
Ouais, c'est vrai. Alors, en gros, Bornéo, là d'où vient ce médicament, est devenu très important et l'Europe a commencé à faire des échanges commerciaux avec l'Asie parce que certaines matières premières se trouvaient que là-bas.
Mais ce n'est pas mondial si c'est que l'Europe et l'Asie.
Et mollo mollo, l'astico, j'ai pas fini. Ça s'étend plus loin encore avec le composé synthétique parce que celui-ci se trouve partout.
Ah ouais, il y a grave des ressemblances avec le mien.
Attends, c'est lequel déjà ? La quinine ou la pénicilline ?
La quinine. Ce médicament a été méga efficace contre la malaria et donc giga demandé.
Tu peux me rappeler c'est quoi la malaria déjà ?
C'est une maladie qui se transmet par une piqûre de moustique. Au 19e siècle, elle s'étend rapidement en Europe, en Asie et en Afrique, à la suite de la révolution des transports et de la colonisation, d'où l'énorme besoin de quinine.
Ouais, mais du coup, c'est quoi les ressemblances avec le bornéol ?
Ils viennent les deux d'une écorce et sont très rares mais commercialisés dans le monde entier, d'où le lien avec la mondialisation.
Attends, mais j'ai déjà entendu parler de quinine. Il n'y a pas une boisson ou un truc comme ça où il y en a dedans ?
T'as totalement raison. Dans les années 1870, l'entreprise Schweppes propose des boissons toniques à la base de quinine, dissous dans de l'eau gazeuse avec du sucre et du jus de citron. Ils ont eu beaucoup de succès en Europe et il y a toujours de la quinine dans le Schweppes aujourd'hui.
Mais du coup, ils doivent en produire des tonnes !
Ouais. Ils ont beaucoup produit et d'ailleurs le Quina Bureau d'Amsterdam devient le centre mondial de la chaîne de production. Il négociait les accords entre les planteurs et les fabricants et régulait la stabilité du marché et des prix.
Ah, mais donc c'est une entreprise privée qui gérait tout. C'est très différent de la pénicilline alors.
Attends, c'est quoi déjà la pénicilline ?
C'est le premier antibiotique de l'histoire. Il a été massivement développé par l'industrie, l'armée et l'État américain durant la Seconde Guerre mondiale. Et tu sais que ce médicament était tellement puissant que les Français allaient même voler l'urine des soldats US pour le récupérer ?
Waouh, c'est impressionnant.
Mais tu te rends pas compte, hein ? Certaines sources disent carrément que c'est un des facteurs déterminants de la victoire des Alliés. À l'époque, c'était un médicament miracle qui soignait la plupart des infections.
Attends, rassure-moi, il n'y a pas que l'armée qui a pu en profiter.
Oui, heureusement d'ailleurs. Ça a permis de lutter contre plein de maladies tropicales. À Haïti, ils ont donné des doses de pénicilline à la quasi-entièreté de la population. Et l'OMS a multiplié ce genre d'opération dans plein de territoires coloniaux et post-coloniaux.
Ah mais c'est trop cool, ça veut dire que le médicament il coûte pas trop cher vu qu'on le distribue partout.
Ce qui est intéressant avec la pénicilline, c'est que dans les débuts de son histoire, elle était très convoitée et seuls les Américains la fabriquaient. Elle a fait partie de la révolution médicale qui a permis la mondialisation de ce produit, car elle était produite dans des quantités gargantuesques. Aujourd'hui, la pénicilline fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'OMS, pourtant plus personne ne veut la produire car elle rapporte plus assez.
Donc en gros, ce qui relie nos trois médicaments, c'est qu'on a besoin pour combattre les maladies tropicales et les infections.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a réussi à développer des techniques de pointe pour les produire à grande échelle. C'est ce qui a permis leur mondialisation et que finalement, la mondialisation s'accompagne toujours d'une industrialisation.
C'était un plaisir de partager avec vous. Allez, cette fois, on vous laisse avec Je suis malade de Stéphane Eicher. Putain, non, mais c'est pas Stéphane Eicher, c'est Je déjeuner en paix de Stéphane Eicher. Excusez-moi. Sur les ondes de Radio Gymnase d'Oignon. Restez bien branchés. On revient tout de suite avec une nouvelle chronique qui s'intéressera aux préjugés.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la...
Alors, comme on vous l'a dit avant cette merveilleuse musique, on a décidé de vous parler des réfugiés. Donc notre dernière chronique va parler des préjugés qui les entourent.
Alors là, je peux te dire que je suis calé sur le sujet. Entre mon oncle qui trouve que les réfugiés profitent du système et mon grand-père qui dit qu'ils n'ont aucun mérite, les insultes volent dans tous les sens pour un repas de famille.
Eh bien, ton oncle est en plein dedans. Les réfugiés profitent du système. Voici un préjugé qui perdure à travers les siècles. Claire et moi, on s'est intéressé à ce préjugé grâce à l'ouvrage de Delphine Diaz que vous pouvez retrouver sur le blog.
Bah, apparemment, je suis le seul qui n'a pas avoir lu l'article. Je vais quand même pouvoir vous aider avec mes histoires de famille. Hein. En plus, c'est bien l'actualité avec la guerre en Ukraine.
C'est vrai, t'as raison. L'article commençait avec ça, justement. Il disait que les réfugiés ukrainiens avaient été critiqués.
Mais comment on peut critiquer des gens en galère comme ça? Mais c'est fou d'être aussi inhumain.
Alors, attends, les critiques sont pas venues tout de suite, mais après quelques mois. Par exemple, en Autriche, un chef politique a dit en gros que les Ukrainiens étaient des profiteurs.
Comment ça, des profiteurs?
En fait, à Vienne, ils n'avaient pas besoin de payer pour se parquer, alors que tous les autres Autrichiens, si.
Mais où va le monde? Ces gens-là, ils ont tout perdu. Je pensais qu'on avait avancé sur les préjugés, mais pas du tout, en fait. Hein.
T'as raison de dire que ce préjugé n'est pas nouveau. Ça a commencé au 19e siècle, quand la France a adopté des législations spécifiques sur les réfugiés. À cette époque, les réfugiés étaient la plupart des exilés de guerre.
T'es en train de me dire que tout le monde était contre tous les réfugiés?
Non, il y avait en quelque sorte deux catégories de réfugiés. L'article nous dit d'ailleurs que Dupin est né. Un homme politique français a déclaré en 1832 « Il y a des hommes que l'on peut trop honorer, des hommes qui se présentent couverts d'honneur, de lauriers, de glorieuses blessures, qui excitent les sympathies de toutes les âmes, mais qui n'ira qu'à côté de ces étrangers honorables, il n'y ait des hommes qui abusent du titre d'exilé. »
Non mais... C'est déjà horrible d'être réfugié. Comment on peut abuser de cette situation? C'est ouf. Et en plus, genre, s'il y a des gens qui mentaient, comment on savait qu'ils fraudaient?
Alors, c'était effectivement un des plus gros problèmes. C'est pour ça que la France a créé l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en 1952.
Attends, je comprends plus là. On n'était pas en train de parler du 19e siècle?
Ouais, pardon, c'était pas très clair. Mais en gros, ça a mis très longtemps pour qu'un pays crée une organisation pour trouver les fraudeurs, tellement que le problème était important.
Et pourquoi ça a pris autant de temps?
Bah, parce qu'on se rendait pas forcément compte des problèmes directement.
Oui, on peut prendre l'exemple de la Suisse. Vers 1950, il y a eu une vague de réfugiés allemands. Et le Conseil fédéral a aidé ces réfugiés en leur donnant 50 centimes par jour. Ce qui représente beaucoup d'argent, pour dire que la vague atteignait les 10 000 réfugiés.
Ok, mais je vois pas le problème pour l'instant.
Deux secondes. Le problème est arrivé environ un an après les autorités suisses se sont rendues compte que certains Allemands profitaient de ce privilège en restant longtemps en Suisse.
On a vu le même problème en Belgique et en France. Mais comme tu peux l'imaginer, ce type de problème n'apparaît pas tout de suite. C'est pour ça que ça a pris du temps pour qu'il y ait des mesures.
Mais alors, ils faisaient comment? Ils jugeaient à la tête du client ou quoi?
Bah écoute, malheureusement, on peut résumer la situation comme ça.
Souvent, les gens éprouvaient d'abord de la sympathie pour les réfugiés, mais après, quand leur exil devenait trop long, une ambiance hostile se créait.
Ok, mais ça m'explique pas comment ils savaient qu'on abusait, qui abusait et qui abusait pas.
Deux secondes, j'y allais venir. C'est souvent les élites qui étaient bien perçues, et les civils issus des classes populaires étaient eux mal vus.
L'article disait aussi que les réfugiés qui venaient du continent africain à cause des guerres de colonisation étaient mal considérés.
Mais il y a des exemples où les réfugiés ont fraudé ou c'est vraiment venu de nulle part?
À mon plus grand regret, je peux te citer des exemples, ouais. Certains réfugiés ont fui leur pays pour cacher le fait qu'ils étaient poursuivis juridiquement dans leur pays d'origine.
Il y avait aussi des réfugiés qui prenaient les aides financières de différents endroits pour profiter d'un maximum de privilèges.
Ok, mais ça c'est des exemples généraux. Il n'y avait pas un truc plus concret dans l'article?
Si, il y en avait un. Ça parlait des bateaux qui transportaient des Vietnamiens et des Cambodgiens dans les années 70. En gros, le but de ces bateaux était de transporter des réfugiés politiques. Et un jour, on a retrouvé des immigrants chinois dans ces bateaux alors qu'ils ne leur étaient pas du tout destinés.
Et du coup, si je comprends bien, ça a totalement décrédibilisé les autres Chinois qui avaient été perçus comme des fraudeurs.
Ouais, c'est ça.
C'est ouf comment l'action d'un petit groupe peut décréditer l'ensemble des vrais réfugiés d'un pays. En fait, ce préjugé, c'est une grosse généralisation de quelques petites fraudes.
Ouais, bah, c'est ça, malheureusement.
On peut aussi prendre l'exemple des réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient, majoritairement de culture musulmane. Ils ont perdu toute leur crédibilité après les attentats de Paris en 2015.
J'ai l'impression qu'il partira jamais, ce préjugé. Comme quoi, les réfugiés sont des fraudeurs.
Petit à petit, peut-être. Mais ça va être long. Il y a déjà eu des mises en place pour tenter de sortir de ce préjugé.
Ah mais oui, j'ai entendu parler de la journée mondiale des réfugiés. Et alors, ça marche?
Peut-être un peu, mais le préjugé reste bien présent et c'est pas nouveau.
Donc si j'ai bien compris, ça fait un bon moment qu'il existe, depuis le 19e siècle, c'est ça hein?
Ouais, c'est ça, même s'il y avait déjà des réfugiés avant.
Ensuite, le préjugé est apparu parce que quelques personnes ont abusé du système et que le monde en a fait une généralité. Et aujourd'hui, on fait de notre mieux pour effacer ce préjugé.
Je pense que t'as tout bien résumé. Pour conclure cette chronique, on vous laisse avec Au feu rouge, un morceau très touchant de Grand Corps Malade. Juste après, vous découvrirez le premier épisode du feuilleton sur le tirage au sort. J'en dis pas plus, musique!
Je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme paquetage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur...
Après cette interlude musicale, nous allons maintenant passer au premier épisode de notre feuilleton sur l'histoire du tirage au sort. Vous allez être plongé au cœur de cette fascinante histoire qui, vous verrez, est pleine de rebondissements.
En effet, chers auditeurs, le tirage au sort est une pratique ancienne qui remonte à l'Antiquité, mais qui continue de diviser les opinions aujourd'hui. Certains y voient une alternative équitable et transparente aux élections politiques, tandis que d'autres craignent un manque de compétences et de légitimité.
L'épisode d'aujourd'hui se concentrera sur l'usage du tirage au sort pendant l'Antiquité à Athènes. Est-ce que vous avez entendu parler des votes sur l'initiative qui voulait tirer au sort les juges fédéraux ?
Ah ouais, j'ai entendu ça quelque part. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur cette initiative ?
Ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette votation, on a reparlé de cette pratique politique qui avait quasiment disparu. C'est vrai que le tirage au sort est une cassure avec nos habitudes. On n'aurait jamais pu imaginer tirer au sort les juges fédéraux avant ça.
Tous les cantons et 68% du peuple ont voté non. Un de leurs arguments était, je cite, « Le hasard ne choisit pas nécessairement pour les juges, les personnes les plus compétentes, mais celles qui ont de la chance. » On voit ici donc le problème, c'était les compétences.
Mais je croyais qu'on allait parler d'Athènes. Pourquoi vous me parlez de la Suisse là ?
Justement, comme on a dit, en Suisse, le problème majeur, c'est les compétences, alors qu'à Athènes, c'en était pas un.
Comment c'est possible ?
Attends, tu vas un peu vite. Commençons par parler du but du tirage au sort dans la démocratie athénienne.
Ah oui, excuse-moi. Le tirage au sort était une méthode utilisée à Athènes pour sélectionner les citoyens qui occuperaient des postes politiques. Au lieu d'utiliser les élections, les Athéniens utilisaient le hasard pour choisir leurs représentants. Cela garantissait l'égalité des chances et évitait la corruption et la manipulation électorale.
Ce système était basé sur l'idée que chaque citoyen avait une contribution précieuse à apporter à la vie politique de la cité. En utilisant le tirage au sort, ils assuraient que chaque citoyen avait la possibilité de participer activement à la prise de décision, plutôt que de laisser le pouvoir entre les mains d'une élite.
C'est fascinant de voir comment un système aussi aléatoire pouvait fonctionner dans la pratique. C'est vraiment loin de notre système actuel. Mais du coup, revenons-en. Il n'y avait pas des problèmes de compétences ?
Non, et c'est un peu grâce à plein de principes différents.
Lesquels ?
Les citoyens sélectionnés par le tirage au sort n'étaient pas laissés à eux-mêmes. Ils bénéficiaient d'un soutien et de conseils de la part de leurs concitoyens. En plus, les esclaves publics étaient justement là pour aider au bon fonctionnement de la machine politique et démocratique athénienne.
Vous arrivez à m'en dire plus ?
Les esclaves publics jouaient un rôle crucial dans la démocratie athénienne. Ils étaient responsables de l'organisation logistique, des assemblées et des tribunaux, veillaient au bon déroulement des procédures. Leur contribution était essentielle pour assurer l'efficacité de la démocratie participative athénienne. Sans leur soutien, il aurait été difficile de coordonner toutes les activités politiques.
Merci pour ces précisions. Maintenant, penchons-nous sur la question de l'absence d'élection dans la démocratie athénienne. Philippot, pourquoi les Athéniens n'avaient-ils pas recours aux élections ?
Pour eux, la démocratie, ça signifie que tout le monde participe à la politique et les élections, ça le permet pas. Il y a juste le tirage au sort qui permet que tout le monde puisse participer à quelque chose, comme 70% des citoyens qui étaient au moins une fois boulotte dans leur vie.
C'est quoi un boulotte ?
C'est les citoyens qui siègent à la boulée.
Et c'est quoi la boulée ?
C'est le conseil des 500. Il s'occupe de créer de nouvelles lois et de contrôler les magistrats.
Ah oui, c'est juste, c'est le contrôle. Et aussi un truc important pour que le tirage au sort de toute, et toute la machine démocratique athénienne, ça fonctionne bien.
Ok, mais il y avait vraiment zéro élection ?
Si, si, il y a quand même les stratèges militaires. Eux, ils étaient élus et leur mandat, il pouvait être renouvelé, parce que c'était vraiment considéré comme le poste le plus important de la ville.
C'est intéressant de voir comment la démocratie athénienne était axée sur l'idée de participation de tous. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils considéraient l'homme comme un zoon politikon.
Oui, tout à fait, les Athéniens étaient des animaux politiques.
Merci pour ces éclaircissements, Philippo et Yorick.
Avant de conclure, il est important de noter que lorsque nous avons parlé de tout le monde qui participe dans la démocratie athénienne, nous faisons référence uniquement aux citoyens.
Effectivement, lorsque nous parlons de tout le monde dans le contexte de la démocratie athénienne, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agissait seulement des citoyens qui étaient autorisés à participer. Cela excluait les femmes, les esclaves et les résidents étrangers. Ainsi, bien que la démocratie athénienne soit une avancée majeure pour son époque, il est essentiel de reconnaître que la participation politique était limitée à une partie restreinte de la population.
Merci pour cette précision importante. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Sans attendre, voici One Day Van Dag, radio édition de Bakermat. Un morceau sur la démocratie.
I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. One day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together to the table of brotherhood? I have a dream. One day.
C'est sur cette musique de Bakerma qu'on se quitte. Dans la prochaine émission, vous allez notamment découvrir la suite du feuilleton sur l'histoire du tirage au sort qui sera consacré aux républiques italiennes. Merci pour votre écoute et bonne soirée sur Radio Gymnase de Nyon.
Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon.